L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis avec Maïa. Maï, on se connaît depuis combien de temps, je ne sais pas. On s'est connus par ton frère Alam,
ouais.
Ça c'est sûr. Je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît. Mais en tout cas, tu es ce qu'on appelle une slasheuse. Tu es color designer. Tu as un blog aussi. Ouais. Tu fais des vidéos aussi. Et ce que je trouve intéressant... Et on a des très longues conversations avec Maï, donc on va essayer de tenir 20 minutes. Ce que je trouve intéressant dans nos conversations, c'est le fait que tu aies fait une grande école de commerce, l'ESSEC pour ne pas la nommer, que tu as fait du marketing, que tu as commencé par un blog entre guillemets beauté, pour finalement arriver à un blog sur la recherche de la vérité.
Ouais.
Et qui est un mouvement, je crois, on peut le dire, sociétal assez global.
Ouais.
Cette recherche de vérité avec le développement personnel, tous ces gens qui se demandent mais où suis-je, où gère, etc., qui est lié pour moi à la disparition des croyances religieuses, en tout cas en Occident, et puis à la famille nucléaire, c'est-à-dire on n'est plus dans des grandes familles comme avant, et puis aussi aux grandes villes qui te rendent très seul. Hein, donc du coup, tu recherches des repères, donc tu t'appuies sur. Donc ça explique aussi la montée des. Certains extrémismes parfois. Donc on est tous un peu perdus. Donc d'où le développement personnel, d'où la recherche de vérité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est parce que c'est un blog qui s'adresse aussi à des marketeurs. Comment on fait dans une société où les gens sont en recherche de vérité versus le marketing qui est de plus en plus considéré comme du bullshit generator. c'est quand même le mensonge. Enfin, c'est comme si marketing était synonyme de mensonge. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est un peu considéré comme ça dans la tête des gens, pour en tout cas pour beaucoup de gens. Comment qu'est-ce que c'est que cette recherche de vérité? C'est quoi ton parcours? Pourquoi t'es arrivé jusque là? Et comment on associe ça avec le marketing?
Alors,
la grande question.
Ok, alors on va essayer de mettre en marche une réflexion. Alors, en fait, je pense que le c'est très bien le marketing. Le marketing, c'est fait pour vendre, mettre sur le marché de manière cohérente un produit au bon prix pour une bonne cible.
Exactement.
Moi, je suis très contente qu'il y ait des marketeurs qui trouvent des bons produits, qui correspondent à des besoins ou des nécessités, c'est parfait. La problématique aujourd'hui, je pense pour un marketeur, c'est que beaucoup de leur activité est basée sur des études où on va demander. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans la cosmétique.
Ouais.
Je travaille toujours beaucoup dans la cosmétique où on va demander aux femmes quel est leur avis sur une situation, sur un objet, sur un projet. Et les réponses qui sont données, en fait, elles vont dépendre du niveau de conscience de la femme, donc, ou de l'homme d'ailleurs. Mm-hmm. Plus la société est en marche vers l'idée de grandir, plus les réponses qui vont être apportées vont être en relation avec un niveau de conscience plus élevé, et moins la possibilité d'avoir un marketing bullshiteux va pouvoir avoir de la place.
Ouais,
c'est logique.
Sûr.
Donc, au final, moi qui j'ai travaillé chez Lancôme et puis après je travaille toujours avec des clients qui sont dans la cosmétique, il n'y a pas de machination. Il n'y a pas un seul de mes clients qui dit non mais on va orchestrer une objectivation de la beauté de la femme. Non, personne ne dit ça.
Non.
Maintenant, ce dont on se rend compte plus on avance, plus on grandit, plus on cherche cette vérité, plus on essaie de se développer et plus on comprend que la société elle est basée sur sinon des mensonges, beaucoup de contre-vérités.
Ou des croyances.
Des croyances, mais des croyances qui sont basées sur des contre-vérités.
Ouais, c'est vrai.
Donc, que ce soit sur c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi la relation qu'il y a entre les deux, c'est quoi être belle, grosso modo, un peu tout. Mmh. C'est quoi réussir, c'est quoi le succès, c'est quoi être soi.
Alors, du coup, c'est quoi. Du coup, c'est marrant, t'as fait le truc à l'envers, entre guillemets, mais c'est quoi ton chemin à toi?
Ah oui, d'accord.
Non, mais vas-y, c'est pas grave.
Mon chemin. En fait, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que.
Comment on passe de l'essai à la recherche de la vérité?
Alors, déjà, je pense que le point d'ancrage, c'est que je suis fille d'immigrés.
Ouais.
Je suis fille d'immigrés vietnamiens pour qui, à la fois l'intégration dans la société française et l'idée de réussite sont primordiales. Mmh. J'arrive à l'ESSEC. Ouais. D'accord. Donc ça se fait sur des rails. D'accord. J'arrive à l'ESSEC, je suis embauchée directement par L'Oréal, chez Lancôme, sur les collections maquillage, je fais du développement, je suis passionnée par l'idée de beauté.
Ouais.
Et puis, dans cette idée de beauté arrive l'histoire des couleurs.
Ouais.
Donc je bosse avec un DA qui me met le pied à l'étrier et je vais dire une phrase collector, je suis hyper forte en couleurs. Donc je fais des formations, etc. Et en fait, la couleur m'aide à voir la vie différemment. D'accord. Et en fait, j'avais pas mesuré à l'époque, donc c'était il y a 15 ans. Mais en fait, c'est une manière très méditative et très, très factuelle d'être au monde. Donc je sors de mon cours et là tu vois plus un ciel et un toit et des nuages, tu vois des camaïeux de gris. Et c'est juste une autre manière de voir la vie. Ça veut pas dire que le toit, les nuages et le ciel sont faux, mais tu les vois différemment. Donc je tire le fil et je me dis mais en fait c'est ça que je veux développer. Je pose une DEM, je pars aux Arts Déco. Et en fait, je découvre un autre monde de beauté aussi, où on soi-disant on crée de la beauté. Donc j'y reviendrai après. Je suis en jogging toute la journée, je me maquille pas, je suis jamais aussi épanouie et j'arrive au point de non-retour. Et donc je reviens jamais en entreprise. Ouais. Ça veut pas dire que j'y retournerai pas. Si demain je vais y retourner, peut-être que j'y retournerai. Mais
je suis dans la mouise.
Voilà, non mais je sais que je suis adaptable en fait.
Non je peux.
Donc voilà et puis je continue à tirer le fil et puis en fait à un moment donné mon frère justement là m'en parlait me dit mais ouvre un blog beauté, t'as une connaissance hyper forte des marques, de leur quotidien, de leur développement, puisqu'entre temps je suis devenue donc color designer. Spécialisée en cosmétique, donc surtout sur les parfums et le maquillage. Et puis, le projet m'intéresse pas, tel quel.
Mais tu l'as fait quand même, Super Bite Image.
Alors voilà, exactement. Mais le projet qui m'intéresse vient parce que je visionne un jour une vidéo de savoir-faire. C'était une vidéo Hermès d'ailleurs. Et c'était une vidéo hyper simple, juste avec des gestuels, des rituels, une transmission. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Et donc le blog beauté que je lance, donc il y a 7 ans, est autour de cette transmission de gestuelle, d'une idée de sororité déjà. Mmh. Et puis je chemine et puis finalement je commence à écrire et puis les interrogations sont d'un autre ordre en fait. Elles commencent à être c'est quoi être une mère, c'est quoi vieillir, c'est quoi avoir des enfants, c'est quoi être une femme. Plein de questions en fait et puis je tire le fil en fait et puis c'est tout finalement et le fil se tire et puis petit à petit les gens que je filme me montrent plus non plus tu vois tu me disais je crois beaucoup aux énergies et je pense que c'est ça aussi c'est que je devais pas dégager cette cette quête de beauté, mais quelque chose d'autre. Et du coup, les gens ont commencé à me montrer comment ils cuisinent, comment ils parlent, comment ils pensent, comment ils dansent. Et c'est devenu une galerie de portraits filmés et d'interrogations écrites sur ben, c'est quoi la vie, c'est quoi vivre. Et donc,
c'est quoi le bonheur,
c'est quoi la vérité. Et en fait, je me suis rendu compte que cette quête de beauté, elle peut être très toxique. En vérité, il y a plein de gens qui créent la beauté vachement bien, je trouve. Moi, c'est pas trop mon propos, puisque je dirais que d'autres le font mieux que moi, et ou que ma soif de cette soif-là, c'est étanché.
Ouais.
Et puis elle s'est étanchée parce qu'en fait de la beauté il y en a partout. Ce qu'il faut c'est développer son regard, c'est développer son, ouvrir son cœur, c'est ça qui nous permet de la voir en fait, de la saisir, que ça devienne un cadeau pour toi. Mais il n'y a pas de nécessité à créer de la beauté en vérité. Maintenant ce que j'ai compris, c'est que moi j'avais besoin de beauté parce que j'avais besoin d'une guérison. Et cette guérison, elle était tout autre, elle était sur d'autres blessures narcissiques. Et la beauté, en fait, ça guérit pas ça, pas comme je la pratiquais.
Non.
Donc voilà, petit à petit, en fait, tu chemines, et voilà, tu tires le fil, et tu te rends compte que, ben, en fait, c'est pas vraiment de la beauté dont j'ai besoin, c'est comprendre qui je suis, qu'est-ce que je fous là.
Non, mais, et donc coup, voilà. Ce que je trouve intéressant, et pour revenir du coup à la question originale, tu vois, le sujet que tu as abordé au début, c'est que, enfin, et à mon avis, tu le vois à travers les interviews que tu fais, donc les personnes que tu reçois, mais aussi à travers les réactions des gens qui les regardent,
ouais.
C'est qu'en fait, et de toute façon, on peut le voir, enfin, je veux dire, il faudra être aveugle pour ne pas se rendre compte que le développement personnel, c'est un truc qui est en train de se développer, justement, ouais. De manière colossale, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une vraie recherche de vérité occidentale, en ouais. tout cas, parce que justement, je pense qu'on s'oriente vachement vers l'Orient, pour
ouais,
ça, en tout cas, vers l'Inde, la Chine.
L'orientalisation du monde, ouais.
Exactement, il y a une vraie orientalisation du monde. Donc ça, c'est un mouvement qui est global. Mm-hmm. Toi, tu y participes énormément ouais. à ton niveau pour toi et puis aussi en partageant des contenus sur le sujet. Et du coup, est-ce que tu vois dans les marques avec les gens avec lesquels tu travailles un mouvement aussi... Alors, je pense qu'ils ont un mouvement à leur niveau personnel, parce que c'est quelque chose qui joue au niveau personnel. Mais est-ce que tu vois, est-ce que quand ils sont au travail, ils endossent leur habit du parfait marketeur qui va taper la 35+ ou, comment ça marche en fait?
Bah en fait, il y a les deux. C'est ouais. que on parlait des enquêtes auprès des consos au départ. Et en fait, il y a à la fois des questionnements humains, personnels, intimes, du fameux « qu'est-ce que je fous là ?»
ouais.
Et donc en fait, alors attends, qu'est-ce que je fous là ? Ouais, je prépare des présentations toute la journée, des plateaux avec la concurrence, des charts, etc. Je reviens, je suis épuisée, j'ai plus envie de faire l'amour avec mon mec. Est-ce que c'est ça, ma vie ?
C'est ça.
Donc voilà. Donc,
surtout en plus quand on dit que ton boulot c'est de la merde. Parce que quand t'es marketeur, c'est quand même « ah ouais, t'es marketeur, donc t'es un menteur en fait ah. ».
Oui, alors qu'en fait, moi je trouve pas. Enfin, voilà, ça c'est après, c'est tout dépend comment tu le pratiques.
Ouais.
Mais voilà, la question elle est toujours dans l'humain, elle est pas dans la pratique du marketing ou de la vente ou de la production, peu importe. Après, en tant que fonction marketing,
ouais.
Moi je rencontre des gens qui me disent non, mais notre marque elle est blanche en fait, on peut pas avoir une égérie noire. Donc en fait, ils sont en même temps au niveau personnel sur des questionnements profonds de cette quête de vérité, et en même temps, quand ils endossent leur petit habit ou leur grand habit, ça dépend.
Du parfum marketeur,
ils mettent en place ou ils remettent en place ou ils refont fonctionner tout ce contre quoi ils se battent d'un point de vue personnel.
Ouais.
Et donc on a une petite schizophrénie en ce moment, mais je pense que c'est normal, on est dans une période de crise puisque on est juste en train de se rendre compte que tout ça est faux, Ouais. Donc c'est normal, on est juste au démarrage, on sort de la matrice, on est au pied de la montagne. Ouais. Donc on est en train de gravir, ça se fait un pas après l'autre.
D'accord. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire que le marketing, ça ne s'oppose pas à la quête de vérité.
Pas du tout.
Pas du tout.
Selon moi. Mais après, le marketing va devoir se réformer. Ouais. Je pense avec deux choses. Moi, ce que je disais, par exemple, à mes clients pendant longtemps, c'est que vous travaillez au niveau scientifique sur vos molécules, vos nouveaux pigments et tout ça, et c'est parfait. Mais la grosse révolution sur votre marché aujourd'hui, c'est le tutoriel. Ça n'a rien à voir avec votre métier, en fait. Mmh. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et en fait, si on parle de cosmétique, le tutoriel comme le digital aujourd'hui, ce que ça amène, c'est des visages, une diversité, des singularités, des vécus. Mmh. Et donc, tout ce qui était que des mots, ça devient des réalités partageables, connectées. Et c'est comme ça qu'on grandit, en vérité. Donc, le marketeur, il va devoir faire face à des gens qui sont de plus en plus adultes. On a été dans une société très, très infantilisante.
Ouais, c'est vrai.
Donc, nécessairement, ils vont devoir se réformer.
Et ça, tu vois un mouvement qui arrive chez eux ou pas?
Enfin, alors, ça dépend.
Ça dépend des personnes. Hein.
Ça dépend. Si on parle de la cosmétique, par exemple... Mm-hmm. Comment dire? Tout le marché cosmétique a été formaté par l'idée de séduction pendant, ouais, je ne sais pas, 40, 100 ans.
C'est pareil pour la lingerie, hein, cela dit.
C'est pareil pour la lingerie, mais je connais un peu moins le marché. Sujet, ouais. Donc du coup, le champion du truc, c'est Dior. Mmh. Donc le champion de la séduction, c'est Dior, donc au niveau de la mode et puis de la cosmétique. Donc du coup, ça devient un des gros acteurs du marché. Ouais. Aujourd'hui, le marché, il se développe de plus en plus vers l'expérimentation. Donc c'est, j'ai un visage, mais en fait, je peux en avoir 1000 des visages. Mmh. Je peux le mettre comme ci, comme ça. Et le seul frein que j'ai, c'est le savoir-faire. Ouais. Comment je deviens comme ci, comment je deviens comme ça, je vais prendre un tutoriel. Mmh. C'est tout. Et du coup, toute l'angoisse qui était associée au fait d'être belle, respectable, mmh, et séduisante pour un homme, mmh, ça se transforme en deviens qui tu veux, quoi.
Ouais. Et moi, j'avais aussi l'impression, parce que tu dis justement séduisante pour un homme, j'ai l'impression qu'il y avait un mouvement vers l'autoséduction.
Alors oui et non. C'est-à-dire que quand tu regardes à la fin, par exemple, des meufs comme Huda ou Kat Von D, qui sont vraiment les personnalités phares aujourd'hui sur le marché, qui ont leur chaîne et surtout leur Instagram avec des feeds, ouais, de tutoriels infinis, totalement... à chaque fois que je les regarde, je suis entre le dégoût et la fascination. Chaque fois que je regarde, je suis là, ah ouais, ça peut se faire comme ça, en fait. Elles n'ont rien à foutre que les mecs aiment ou pas.
D'accord.
Ce qu'elles font. Et ça, c'est un shift énorme, énorme, énorme au niveau de l'idée de... Enfin, au niveau du marché de la beauté. Pour autant, quand tu vois à la fin ce qu'elles font, c'est quoi? C'est quand même effacer les cernes, c'est lisser les pores, c'est bien blender leur contouring. Donc, tu as toujours quand même cette idée de perfection. Alors... Je pense qu'il y a quand même une envie d'être les reines du bal.
Ouais.
Mais la communauté qu'on va séduire, c'est ses copines et ses followers.
Ouais. Il y a vraiment
plus
ce truc aussi.
Ah ouais, non, c'est plus du tout ça.
Donc c'est plus une séduction sexualisée, on va dire.
Pas comme avant, en tout cas.
Alors que les marques, pour le coup, moi, je pense qu'elles n'ont pas vraiment fait ce mouvement.
Ça dépend lesquelles, c'est-à-dire que toutes les marques qui étaient les marques, comment on va dire ça ?
Historique ?
Pas de l'ancienne garde, parce que c'est historique, d'accord ? Elles sont en train de passer de ce truc d'empowerment pas lié au masculin, mais je suis même pas sûre que ce soit le bon truc à faire.
D'accord.
Parce qu'il faut bien différencier les langages, se positionner. Mmh. Et donc, c'est en restant aussi soi-même que les gens viennent chercher ce que vous faites de mieux, quoi. Mmh. Donc, je dis pas que elles doivent continuer à marketer une seule forme de féminité, une seule forme de De beauté.
C'est même l'inverse d'ailleurs. Il y a multiformes de beauté.
Ah bah évidemment. Mais du coup, le nombre de marques qui n'ont qu'une seule égérie, qui n'ont qu'une seule manière de voir les choses, qui ne proposent qu'une seule manière d'être empowerée, et que cette manière, en fait, elle est très masculine.
Ouais.
Hein, finalement, c'est soyez chef du monde, quoi. Donc ouais, au final,
c'est, tu vois, typiquement, alors on n'est pas en train de faire un truc sur le féminisme, mais j'aime pas trop cette phrase de the future is female. Pour moi, le futur, il est ensemble, en fait.
Ouais, je déteste. Mais après, j'avais écrit un post là-dessus, future is human. En fait, je pense qu'il faut, faut distinguer homme-femme de masculin-féminin.
Ah oui, et déjà, ça c'est important.
Ça c'est important. Chaque femme doit gérer son spectre entre sa masculinité et sa féminité, et chaque homme doit faire de même.
Accepter sa féminité déjà.
Pardon ?
Accepter sa féminité déjà, sa part féminine.
Alors voilà, certains psychanalystes disent que l'homme devient homme lorsqu'il accepte son féminin. Malgré tout, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les femmes qu'on met en avant sont des femmes qui ont totalement intégré leur masculin, mais qui... Bon. Si on revient sur future is female, ça dépend de ce que... Est-ce que ça veut dire qu'il faut donner plus de pouvoir aux petites filles, donner plus de place de leader aux femmes? Oui, mais autrement dit, c'est juste faire aussi bien que les garçons et les hommes. Donc, pour moi, c'est pas intéressant comme balance, en fait.
Mais non, c'est pas vrai.
Non, puisque ça veut dire que on garde notre misogynie, on ne veut pas voir quelles seraient des valeurs féminines, et on essaie d'appliquer aux femmes ce que c'est qu'une réussite à la masculine, quoi.
Ouais.
Diriger et dominer.
Exactement. Attends, on change de sujet.
On a changé de sujet. Je suis totalement confuse.
C'est pas grave, non mais c'est intéressant. Ça partit du mouvement, cela dit, de recherche de vérité et de marketing, mais bon, c'est juste que là c'est sexualisé, mais parce que tu travailles vachement dans la cosmétique aussi. Donc,
ouais.
Donc c'est forcé, quoi. Et cela dit, je crois qu'on touche à la fin. Alors du coup, j'ai toujours cette question. Comme ce podcast s'appelle Vlan, à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Eh bien, j'aimerais claquer la porte. À nos propres idées préconçues, en fait.
Ouais.
À ce que nous... Parce qu'en fait, c'est assez simple de dire « Oui, la société comme ci, la société comme ça. » En fait, on continue à diviser sans cesse les gens. Et j'aimerais bien faire Vlan intérieurement à chacune de nos idées préconçues, chacune de nos peurs, chacun de nos barrages. Ouais, je sais pas si c'est Vlan, mais en ouvrant la porte, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois bien.
Faut tout ouvrir, là. Faut ouvrir tous les chakras.
Cool, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.